Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les côtes de la Nouvelle-Aquitaine sont menacées par une pollution aux hydrocarbures. La faute à un cargo italien qui a coulé mardi à 300 km de La Rochelle. Nous étudierons les risques et écouterons le ministre de la Transition écologique, François de Rugy.
Et puis vous entendrez ensuite les arguments du gouvernement et de l'opposition quant à la privatisation d'Aéroports de Paris. Les débats à ce propos doivent commencer ce matin à l'Assemblée nationale.
Dans ce journal encore, nous rejoindrons notre correspondant à Washington. Les États-Unis ont finalement décidé d'immobiliser les Boeing 737 Max au sol, trois jours après le crash en Éthiopie. Un coût économique important pour l'avionneur américain.
Et puis, alors que le Royaume-Uni ne sait toujours pas comment sortir de l'Union européenne, la Hongrie joue avec le feu. Son premier ministre Viktor Orban fait campagne contre les responsables européens. Nous irons à Budapest.
Pourquoi La République En Marche est en tête dans les intentions de vote pour les élections européennes de mai prochain? Frédéric Saïs vous répondra dans son billet politique après cette édition. La France va déployer 4 navires de lutte anti-pollution au large de la Charente-Maritime et de la Gironde. Et ce pour tenter de contenir et de nettoyer la nappe d'hydrocarbures qui s'y répand en ce moment. Cela fait suite au naufrage d'un cargo italien, Grande America. C'était avant-hier au large de La Rochelle. Ce cargo transportait 45 containers de matières dangereuses, mais surtout 2200 tonnes de fioul, dont une partie se retrouve donc en mer, Valérie Lenigène.
C'était à prévoir. Au moins une cuve a explosé sous la pression, libérant cette nappe repérée non loin du naufrage. Le préfet maritime a immédiatement fait appareiller l'Argonaute, ce navire spécialisé dans la lutte anti-pollution basé à Brest. Il faut agir vite. Avec les vents d'ouest, le risque de pollution concerne la côte entre la Charente-Maritime et la Gironde. Parmi les urgences, il va falloir évaluer combien de fioul s'est échappé et s'il en reste beaucoup dans les cuves. La préfecture maritime a en effet demandé à l'armateur, la société Grimaldi, d'étudier la possibilité de pomper le fioul. C'est compliqué à une telle profondeur, moins 4600 mètres, mais c'est possible. Quant aux 45 conteneurs de matières dangereuses, il y a notamment une centaine de tonnes d'acide chlorhydrique, 70 tonnes d'acide sulfurique. Ils inquiètent moins les autorités. Une partie a probablement brûlé et le reste aura sans doute un impact très localisé, contrairement au fioul.
Valérie Lenigène de France Bleu Brésisel pour France Culture ce matin. Les côtes atlantiques sont donc menacées. L'État français a mis en alerte deux zones côtières. C'est ce qu'indiquait hier soir François de Rugy, le ministre de la Transition écologique.
Nous avons des modèles avec Météo France, avec des modèles qui tiennent compte des courants marins, de la force du vent, des vagues, et on peut donc estimer à ce jour que au plus tôt, ces nappes de pétrole pourraient toucher le littoral français vers dimanche soir ou lundi. Nous ne savons pas, à l'heure où nous parlons, s'il y a une fuite d'hydrocarbures depuis les soutes, depuis plusieurs soutes qui, je le rappelle, le navire a coulé à 4500 mètres de fond, donc nous ne pouvons pas aller observer à ce stade la coque du navire et les éventuelles fissures, mais il y a d'ores et déjà une nappe à la surface de la mer.
Le ministre François de Rugy, par ailleurs, l'association Robin des Bois annonce qu'elle veut porter plainte contre l'armateur du navire pour pollution et abandon de déchets. Le ministre de la Transition écologique François de Rugy qui explique par ailleurs que les mesures prises par le gouvernement français pour le climat commencent à porter leurs fruits, mais qu'une partie de la population, il cite les gilets jaunes notamment, qu'une partie de la population n'est pas prête à des changements brusques. 4 ONG ne l'entendent pas de cette oreille, elles déposeront aujourd'hui leur plainte contre l'État pour inaction face au changement climatique. Ce sont ces ONG qui avaient lancé la pétition en ligne « L'affaire du siècle » signée par plus de 2 millions d'internautes. Les débats promettent d'être agités ce matin dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, la loi Pacte, les députés vont examiner la privatisation d'Aéroports de Paris, une entreprise qui rapporte chaque année beaucoup d'argent à l'État. Alors que veut en faire le gouvernement? L'ensemble des députés de l'opposition, à droite comme à gauche, se posent la question. Et c'est la députée La République En Marche de l'Essonne, Amélie de Montchalin, qui leur répond.
Aujourd'hui, ADP a besoin d'investissement. Il y a des investisseurs privés qui sont prêts à l'accompagner. On va mettre en concession la partie non stratégique de l'activité aéroportuaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la frontière, ce n'est pas le contrôle des passeports, ce n'est pas le contrôle même du terrain des pistes. En revanche, ce qui révèle l'activité commerciale, on le confiera par concession pendant 70 ans un acteur qui sera choisi en fonction d'un cahier des charges pour s'assurer que l'intérêt collectif sera préservé. Nous n'allons pas répéter les erreurs qui ont été faites au moment des autoroutes. Au moment des autoroutes, les tarifs ont été laissés libres aux concessionnaires. Pour les aéroports, Bruno Le Maire vient de nous le rappeler à nous les députés, il est essentiel que l'État ne laisse pas les tarifs à la main d'un acteur privé. Et donc il y aura, contrairement à ce qui se passe pour les autoroutes, un investissement très fort de l'État pour les contrôler.
Mais les propos de la députée de la majorité ne rassurent pas les élus, et notamment le député socialiste des Landes, Boris Vallaud. Il voit dans cette privatisation d'ADP une aberration.
C'est une erreur majeure sur le plan financier et sur le plan stratégique. Sur le plan financier, c'est une entreprise qui est en plein essor, avec, je vais dire, des dividendes importants qui sont versés chaque année et qui sont croissants. C'est une concession, une privatisation qui va nécessiter d'abord l'indemnisation autour de plusieurs centaines de millions d'euros des actionnaires minoritaires. On commence par perdre de l'argent. C'est une imbécilité économique. Et puis sur le plan stratégique, ADP, ce n'est pas une entreprise comme les autres. C'est le hub d'Air France. C'est un monopole naturel. C'est un service public d'intérêt national. C'est un outil de souveraineté. C'est une entreprise qui est au cœur de tous les grands projets d'aménagement de la région Île-de-France. Premier pôle d'emploi en France. Que le gouvernement confie cela au privé est une erreur magistrale.
Des propos recueillis par Stéphane Robert. Les syndicats pénitentiaires vont être reçus à partir de 9h tout à l'heure par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. 9 jours après l'agression au couteau de 2 surveillants à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, ils continuent de bloquer une douzaine d'établissements et ils demandent une meilleure sécurité, de meilleurs salaires ainsi qu'un changement de statut. En bref, encore, le nombre de féminicides dans les couples reste quasi constant en France. 109 femmes ont été tuées par leur conjoint en 2017. Le chiffre est dévoilé ce matin par l'Observatoire national de la délinquance et réponse pénale. 109, c'est autant qu'en 2016, 9 de moins qu'en 2015. Autre chiffre de l'Observatoire, un quart de ces meurtres ou assassinats interviennent après la séparation.
8h07 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Les États-Unis lâchent finalement Boeing.
Oui, en cédant au consensus international, Donald Trump a annoncé hier soir que tous les Boeing du type 737 MAX resteront cloués au sol sur le territoire américain, comme dans une partie des pays asiatiques, comme en Europe, en Australie, au Canada. 3 jours après le crash d'un Boeing en Éthiopie qui a fait, rappelons-le, 157 morts, le deuxième accident mortel en 5 mois. Nous retrouvons notre correspondant outre-Atlantique. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Clara.
Grégory, Donald Trump a donc changé d'avis.
Alors en vérité, ce n'était plus vraiment tenable après une décision similaire de la part de très nombreux pays, de la part de l'Union européenne et hier après-midi du Canada voisin. Et puis il y a eu aussi ces informations de presse publiées hier où plusieurs pilotes américains ont fait état d'incidents, 5 au moins sur ces appareils, et à chaque fois du même type, à savoir un avion qui, peu de temps après le décollage, pique du nez pour une raison indéterminée. Évidemment, ça rappelle le crash de la compagnie Lion Air à l'automne en mer de Java. Et puis enfin, la FAA a récupéré et analysé hier de nouvelles données satellitaires qui montrent quoi ? Eh bien que l'appareil de la Lion Air et celui d'Ethiopian Airlines, qui s'est écrasé dimanche, ont connu à peu près la même trajectoire, la même catastrophe. Bref, tout ceci mis bout à bout fait qu'effectivement Donald Trump n'avait plus vraiment le choix et qu'il a annoncé hier, depuis la Maison Blanche, en personne, cette décision à effet immédiat.
Et quelles conséquences, Grégory, cette décision peut-elle avoir pour le constructeur américain Boeing ? Grégory Phillips, que nous retrouvons aux États-Unis. Grégory, je vous demandais quelles conséquences pour l'avionneur Boeing de cette décision de Donald Trump.
Alors écoutez, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle. On se souvient quand même que Boeing a enregistré 5000 commandes pour cet appareil à 120 millions de dollars l'unité. Je vous laisse mesurer les enjeux économiques. Et puis les compagnies vont sans doute réclamer des dédommagements pour toute la période où ces avions seront immobilisés. Mais vous savez, en 2013, Boeing avait connu la même chose avec le Dreamliner, cloué au sol pendant plus de 120 jours. À cause là d'un problème de batterie, ça avait coûté très cher au constructeur. Et puis finalement, il s'en était remis. Boeing reste aujourd'hui le premier exportateur américain. D'ailleurs, regardez, à la bourse de New York, l'action Boeing a baissé hier au moment des annonces de Trump, mais elle est remontée peu de temps après. Ça veut dire que les marchés ne sont pas trop affolés. Il y a une certitude, en tout cas, c'est que cette immobilisation va durer longtemps. On n'est pas sur une question de jours, mais plutôt de semaines. Le temps d'identifier le problème, s'il y en a un, et évidemment d'apporter les modifications nécessaires sur toute la flotte.
Grégory Phillips depuis Washington pour France Culture. Pour l'enquête, justement, les boîtes noires vont être analysées en France. Elles ont été envoyées à Paris. Quelques semaines, au moins, disait Grégory Phillips à l'instant pour l'enquête. Voilà qui pourrait avoir des répercussions économiques sur les équipementiers de Boeing. Et beaucoup d'entre eux sont français, Hakim Kasmi.
Sur la trentaine de fournisseurs de premier rang du Boeing 737 MAX, Safran est le plus exposé. Le groupe aéronautique fournit notamment la totalité des moteurs, y compris celui installé sur la version MAX du 737, le LEAP, un moteur de nouvelle génération qui consomme 20% de carburant en moins. Mais aussi d'autres éléments vitaux, comme des calculateurs de régulation, des systèmes de transmission et des nacelles qui correspondent au capot du moteur des avions. Des éléments qui représentent un tiers de la valeur de l'appareil. Safran, qui avec sa nouvelle filiale Zodiac Aerospace, fournit également d'autres pièces majeures du 737 MAX, comme par exemple le système de câblage électrique, les sièges, les roues ou encore les freins en carbone. L'équipementier qui ne souhaite pas s'exprimer nous indiquait que pour l'instant, ses livraisons avec Boeing s'effectuaient normalement. Autre industriel concerné, Thales, qui fournit des systèmes de télécommunication et de divertissement à bord. Thales qui nous a précisé ne pas être inquiet, car son principal client reste Airbus. Sont également présents Michelin pour les pneus, Saint-Gobain, Daher ou encore Latéco Air. Une liste de contributeurs qui comprend aussi des PME et des TPE qui vont suivre avec attention la suite de l'enquête. Enfin, rappelons qu'Airbus avait connu des difficultés similaires au lancement de son A320 à la fin des années 80, qui là aussi s'était soldé par les accidents mortels.
Et notons que trois jours après le crash d'un Boeing donc en Éthiopie, c'était dimanche dernier, le président français Emmanuel Macron est en Éthiopie en ce moment. Il a discuté, nous l'apprenons ce matin, il a discuté avec le premier ministre éthiopien d'un nouveau contrat pour Airbus dans le cadre du renouvellement de la flotte d'Ethiopian Airlines. Les députés britanniques rejettent toute sortie de l'Union européenne sans accord. Ils l'ont voté à une courte majorité hier soir. Et c'est donc un nouvel échec pour la première ministre Theresa May qui évoque maintenant la possibilité d'un deuxième référendum au risque qu'il n'y ait pas du tout de Brexit. Aujourd'hui, le Parlement britannique doit se prononcer sur un possible report du Brexit initialement prévu le 29 mars, c'est-à-dire dans 15 jours. Le Royaume-Uni qui se déchire, qui tergiverse pour sortir ou non de l'Union européenne quand dans les autres pays membres, les élections européennes commencent à s'organiser. En cette matinale consacrée à la Hongrie sur France Culture, penchons-nous sur la campagne du parti nationaliste de Viktor Orban. En ce moment, elle suscite la colère du Parti populaire européen, le PPE, groupe conservateur du Parlement européen auquel appartient Viktor Orban. Bonjour Florence Labruyère.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Budapest. Florence, le PPE n'apprécie pas du tout cette campagne de Viktor Orban qui dénigre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.
Oui, sur les affiches qui ont inondé toute la Hongrie, Jean-Claude Juncker est représenté avec un sourire sardonique aux lèvres et le slogan de l'affiche dit « Vous avez le droit de savoir ce que prépare Bruxelles ». Le texte accuse le président de la Commission européenne de vouloir faire venir des millions d'immigrants en Europe. Une accusation bien sûr totalement fausse, mais qui permet à Viktor Orban de continuer à marteler l'idée d'un complot ourdi par des politiciens européens et par des libéraux pour encourager l'immigration en Europe.
Alors Manfred Weber, le chef de file du PPE Florence, était à Budapest il y a deux jours pour demander à Viktor Orban de mettre fin à cette campagne. A-t-il réussi ?
Alors ce qui est assez savoureux, c'est que le jour où Manfred Weber est arrivé à Budapest, toutes les affiches qui jalonnent la route de l'aéroport jusqu'au centre-ville avaient été enlevées, mais elles étaient toujours visibles dans le reste du pays. Alors cette opération de communication devait se prolonger par une deuxième série d'affiches, ciblant cette fois Frans Timmermans, le chef de file des sociodémocrates européens, mais il semble que Viktor Orban y ait renoncé, car hier on a vu apparaître d'autres posters qui vantent les mérites de la politique familiale du gouvernement. Donc de ce point de vue, la visite de Manfred Weber a eu un certain impact.
Il faut souligner aussi, Florence, que Viktor Orban pourrait se voir exclure du parti européen par les conservateurs qui voteront d'ailleurs sur ce point mercredi prochain. Est-il en train de jouer avec le feu ?
Pour le Premier ministre hongrois, le plus important est de gagner les européennes. Et il a choisi le moyen le plus sûr pour y parvenir, une campagne de haine. Et puis Viktor Orban sait qu'il est en position de force. Au sein du PPE, seule une minorité de partis souhaite son expulsion. La majorité a peur de l'écarter, car Orban pourrait alors se poser en victime d'un complot bruxellois et il pourrait former un puissant pôle populiste avec les ultranationalistes italiens, autrichiens et polonais.
Merci beaucoup Florence Labruyère pour ses explications ce matin depuis Budapest. Et nous retrouverons notre invité exceptionnel des matins après ce journal. À vos côtés, Guillaume.
Michael Ignatieff, il est président et recteur de cette fameuse université d'Europe centrale à Budapest qu'on appelle ainsi, c'est en réalité la Fac Soros. C'est l'ancien chef du parti libéral au Canada et il nous donnera son point de vue sur la situation en Europe et sur ce qu'il vit au quotidien également face à Viktor Orban.
Avant cela, notons rapidement ces nouveaux témoignages recueillis par la cellule investigation de Radio France et de Mediapart à propos du génocide des Tutsis au Rwanda il y a 25 ans. Témoignages gênants pour la France qui expliquent que certains militaires français sont allés trop loin en soutenant le pouvoir rwandais au début des années 90. C'est à retrouver en une de franceculture.fr. Le temps de ce jeudi, il s'annonce gris et humide sur les trois quarts du pays. Seul le littoral près de la Méditerranée année verra le soleil avec des températures qui stagnent. 5 degrés ce matin à Besançon, 8 à Paris et Lyon, 10 degrés à Bordeaux, 15 degrés à Marseille.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.